Vous êtes bien à l'écoute de RFI, Radio France Internationale. Il est 23h à Paris, 21h en temps universel. Merci d'avoir choisi la radio du monde. Voici votre journal.
Jérôme Bastion.
À la une de cette édition, le Proche-Orient qui s'enfonce dans la guerre. La FINUL a une fois de plus été visée par des tirs israéliens ce vendredi, blessant deux casques bleus. Paris a convoqué l'ambassadeur d'Israël pour obtenir des explications. L'ONU dénonce une violation du droit humanitaire international. C'est une association japonaise militant pour l'éradication des armes nucléaires qui a reçu le prix Nobel de la paix au nom des victimes des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Son combat reste d'actualité dans un monde en train de se réarmer. Et puis les dirigeants haïtiens et kényans se sont retrouvés à Nairobi pour évoquer les renforts sécuritaires kényans en Haïti qui devraient être déployés dans les prochaines semaines et pour appeler la communauté internationale à accélérer son assistance financière notamment. Au sud du Liban, deux soldats libanais ont été tués dans des combats avec les forces israéliennes et le premier ministre Najib Mikati appelle à un arrêt immédiat des hostilités dans son pays et à un cessez-le-feu. En direct à la télévision, il a demandé à l'ONU une résolution en ce sens, affirmant que le Hezbollah est d'accord pour cette solution. Dans la soirée pourtant, deux drones ont été tirés depuis le territoire libanais vers Israël, l'un ayant été intercepté, l'autre ayant occasionné des dégâts matériels à Herzliya. La FINUL, par ailleurs, la force de l'ONU au Liban, a annoncé que deux nouveaux casques bleus ont été blessés ce vendredi, non loin de la frontière avec Israël. L'État hébreu assure avoir répondu à une menace. Alors pourquoi cette attaque israélienne contre une position de l'armée libanaise et une autre contre les déploiements onusiens ? Élément de réponse avec Paul Khalife, correspondant de RFI à Beyrouth.
Israël souhaite clairement modifier la mission des casques bleus de l'ONU et de l'armée libanaise dans le sud du Liban pour qu'elle passe du statut d'observateur passif à celui de force active, chargée de démanteler l'infrastructure militaire du Hezbollah et d'empêcher la présence de combattants du parti chiite au sud du fleuve Litani. Tant que ces deux forces ne remplissent pas ce rôle, leur présence dans la zone frontalière est inutile et même encombrante aux yeux des Israéliens. À cause de leur déploiement, les milliers de casques bleus et de soldats libanais peuvent ralentir la progression de l'armée israélienne sur le terrain, l'obligeant à faire des détours et des contournements. Et même s'ils ne s'opposent pas par la force à l'avancée des troupes israéliennes, les casques bleus et les soldats libanais restent des témoins indésirables ou gênants. L'armée israélienne a multiplié ces derniers jours les points de contact avec le Hezbollah et a élargi ses zones d'opération en engageant des troupes supplémentaires. Elle ne prend plus la peine de ménager les forces qui peuvent se trouver sur son chemin, surtout si celles-ci n'ont plus aucune utilité dans le cadre des nouvelles réalités qui se dessinent sur le terrain. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
Et ces tirs israéliens contre des casques bleus au Liban ont suscité de vives réactions, notamment en France, où le ministère des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur d'Israël après ces tirs israéliens délibérés contre la FINUL, dont Paris est l'un des principaux contributeurs. Emmanuel Macron a d'ailleurs jugé tout à fait inacceptable que les soldats onusiens soient visés délibérément par les forces armées israéliennes, je cite, et a prévenu que la France ne tolérerait pas de nouveaux tirs. L'ONU et Londres se sont dit de leur côté consternés. Joe Biden a lui demandé vendredi à Israël de ne plus tirer sur les forces de maintien de la paix de l'ONU au Liban. Et puis à Gaza, la défense civile fait état de 30 morts ce vendredi dans des frappes israéliennes à Jabalia, où l'armée israélienne mène des opérations au sol depuis plusieurs jours. 61 personnes avaient déjà été tuées au cours des 24 dernières heures. Le prix Nobel de la paix a été attribué, vous le savez, à une ONG japonaise anti-armes nucléaires. Elle s'appelle Hibakusha, autrement dit en japonais, ceux affectés par la bombe. L'ONG met en avant les témoignages des victimes des bombes nucléaires américaines lancées en fin de Seconde Guerre mondiale. Des témoignages censés œuvrer, bien sûr, contre la prolifération de ces armes. Mais la chercheure spécialiste du Japon, Marianne Perron-Doise, est étonnée de la remise de ce prix alors que le Japon mène en réalité une politique plutôt pro-armes nucléaires. On l'écoute.
J'ai été un peu surprise de cette mise en avant, tout en comprenant bien la portée du symbole. Bien sûr, le Japon a largement mis en avant sa situation d'État pacifiste. En même temps, quand on analyse les discours des cercles politiques japonais, lorsqu'on regarde la situation du Japon qui est dans le cadre d'une alliance de sécurité avec les États-Unis et qui bénéficie de ce qu'on appelle le parapluie nucléaire américain, il y a quand même une certaine ambiguïté dans toutes ces postures. On peut s'interroger sur, au-delà du symbole, sur la réalité de la portée du message pacifiste, et en tout cas non nucléaire, au Japon.
La chercheuse associée à l'IRIS, Marianne Perrondoise, est spécialiste des questions stratégiques en Asie. Elle dirige dans ce centre de recherche, l'IRIS, l'Observatoire géopolitique de l'Indo-Pacifique, et elle était interrogée par Théo Renaudon. RFI, 23h06 ici à Paris, 21h06 en temps universel. Nous aimerions voir une réponse plus rapide et plus d'engagement de la communauté internationale. Nous allons continuer à faire pression en ce sens. Voici l'appel du Premier ministre intérimaire haïtien Gary Conille en visite à Nairobi où il s'est entretenu avec le président kényan. William Ruto a promis un renforcement du contingent kényan dans la MMAS, la mission multinationale d'appui à la sécurité déployée sous l'égide de l'ONU et pilotée par le Kenya, car Haïti reste en proie à la violence des gangs qui ont occasionné des mouvements massifs de déplacés. Pour l'instant, 400 policiers kényans sont en renfort dans les Caraïbes. Ils sont arrivés au mois de juin et devraient donc bientôt, Gaël Lalex, être rejoints par de nouvelles recrues.
600 policiers sont en train d'achever leur entraînement et rejoindront Haïti le mois prochain. C'est ce qu'a annoncé ce matin William Ruto. Lors de sa visite à Port-au-Prince le mois dernier, le président kényan évoquait plutôt un déploiement d'ici janvier. Les choses se sont donc accélérées, comme le demandait le premier ministre haïtien, qui a loué l'action bénéfique de la police kényane pour la stabilité de son pays. Le premier ministre assure que la vie reprend doucement son cours à Port-au-Prince. William Ruto, lui, promet la réouverture des écoles prochainement. Mais l'attaque de Ponsondé la semaine dernière qui a fait 70 morts, rappelle que la stabilité est encore loin d'être acquise. La MMAS manque cruellement de moyens. Sur les 600 millions de dollars de budget annoncés, 135 millions font encore défaut. Les États-Unis sont le principal bailleur de la force avec 380 millions fournis. William Ruto et Gary Conille demandent donc plus d'efforts à la communauté internationale. Avant Nairobi, le premier ministre haïtien était aux Émirats Arabes Unis. Il assure y avoir sécurisé des engagements sans en donner le détail. Gaël Lalex, Nairobi, RFI.
Et pour la précision, sachez que selon un dernier bilan, le nombre de victimes de l'attaque de Ponsondé la semaine dernière s'est désormais établi à 109 morts et plus de 40 blessés. Comment se porte Jimmy Lai? Voilà 4 ans que ce défenseur du mouvement pro-démocratie est en prison à Hong Kong. Homme d'affaires, journaliste, il est détenu en vertu de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin. À l'isolement, son état de santé inquiète désormais. Il possède la nationalité britannique et pour son fils, tout doit être fait depuis Londres pour faire libérer son frère. À Londres, Emeline Va.
Pour l'ONG de défense des droits humains Amnesty International, Jimmy Lai est un prisonnier d'opinion du régime chinois. Son fils, Sébastien, ne l'a plus vu depuis 4 ans.
Sa santé décline. Il est à l'isolement depuis plus de 1300 jours. Il est âgé. Il va avoir 77 ans bientôt. Il a du diabète. Ce n'est pas de bon augure.
Kylan Gallagher dirige l'équipe juridique internationale de l'homme de presse. Elle considère que le gouvernement britannique n'en fait pas assez pour son ressortissant. C'est bien beau de dire « il doit être libéré », mais où est la stratégie? Nous disons au gouvernement britannique, quel plan? Comment assurons-nous sa libération avant qu'un Britannique ne meure en prison pour son travail de journaliste?
L'avocate, tout comme Sébastien Lai, ne peut plus se rendre à Hong Kong pour assister au procès. Pour Rebecca Vincent, de Reporters sans frontières, c'est avant la condamnation quasi inévitable qu'il faut agir.
La condamnation de Jimmy Lai servira d'étalon pour l'application de la loi sur la sécurité nationale aux journalistes et aux activistes pro-démocratie. Sans oublier que la loi sur la sécurité nationale s'applique partout dans le monde. On ne connaît pas les conséquences.
Sébastien Lai et ses avocates n'excluent pas un nouveau report de l'audience. Emeline Vin, Londres, RFI.
Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, vous retrouvez Annie Gasnier et Radio Foot International. L'information revient dans 50 minutes sur RFI Paris, 23h10.